Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, Sandra Buisson est avec nous, Yohann Ouzaï, Joseph Massescaron, Gilles William Golnadel et Georges Fenech sont avec nous. Sandra nous dira tout à l'heure les derniers rebondissements dans l'affaire de Grande-Synthe parce qu'il y a du nouveau ce soir et ce nouveau est important parce qu'il donne une vision différente de ce drame. Mais avant cela, Yohann Ouzaï, merci d'être avec nous ce soir, mardi soir. Vous avez déclaré sur ce plateau que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps. Rima Hassan a publié aujourd'hui un tweet. Elle dit « Bonjour Yohann Ouzaï. Suite à vos déclarations que vous avez tenues sur CNews, Rima Hassan a la haine des Juifs chevillée au corps depuis sa naissance. Je vous annonce déposer plainte contre vous. À très bientôt. Je vous souhaite d'être prêt », dit-elle. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a poussé à dire ça ?
D'abord, je dois vous dire, Pascal, que je suis très surpris du dépôt de cette plainte parce que, voyez-vous, je ne prends aucun plaisir à affirmer que Rima Hassan a la haine des Juifs chevillée au corps. Si je me suis permis de le dire, c'est parce que, hélas, je pense bien pouvoir en apporter la preuve. Je pense bien en avoir la preuve. Mes propos, ils sont étayés. C'est d'ailleurs mon rôle de journaliste, de parler en connaissance de cause et de s'appuyer sur des faits. Alors sur quels faits précisément est-ce que je me suis basé pour affirmer que Rima Hassan avait la haine des Juifs chevillée au corps ? Il y a de multiples exemples. J'en ai pris quelques-uns. Quand on lui pose au mois de novembre dernier la question « L'action du Hamas est-elle légitime ?» Elle répond oui. Oui, c'est vrai, l'action du Hamas est légitime. Elle légitime donc le pogrom du 7 octobre dernier. Elle trouve une justification à ce pogrom. Si là, on n'est pas dans l'antisémitisme, alors où est-on ? Je pose la question. Je lui pose la question. Quand on lui demande si Israël a le droit de se défendre, elle répond non. Non, c'est faux. Non, Israël n'a pas le droit de se défendre. Est-ce qu'on n'est pas là dans une forme aussi d'antisémitisme ? Quand elle utilise l'expression, ou plutôt le slogan « From the river to the sea », qui signifie la Palestine de la rivière à la mer, ce qui veut dire en fait « raser l'État d'Israël », ce qui veut dire détruire l'État hébreu et par extension le peuple juif. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'antisémitisme ? Je pose à nouveau la question. Plus récemment, on a vu l'exemple d'affiches, notamment pour la conférence qui devait se tenir à Lille. Sur cette affiche, il y a la photo, le nom de Rima Hassan. Et à côté de cette photo, sur cette affiche, le slogan, le logo de Free Palestine, où là aussi, Israël est rayé de la carte. On est à nouveau dans la négation de l'État d'Israël, dans la négation du peuple juif. On n'est pas là dans l'antisémitisme. J'aimerais pouvoir dire le contraire. J'aimerais pouvoir affirmer que Rima Hassan n'est pas antisémite. Je pense pouvoir prouver le contraire. Rima Hassan m'a interpellé. Elle me dit « Je vous souhaite d'être prêt, je ne vous épargnerai pas ». Comme souvent dans l'extrême gauche, on est dans la menace. Ça ne m'intimide pas beaucoup. Je suis journaliste, je ne suis pas un opposant politique, donc j'irai répondre devant le tribunal si la procédure va jusque-là, avec des arguments journalistiques pour démontrer qu'effectivement, selon moi, Rima Hassan a la haine des Juifs.
Et d'une certaine manière, elle vous met en danger, bien sûr, puisque vous êtes fortement attaqué depuis quelques heures, notamment sur les réseaux sociaux. C'est votre liberté de journaliste, d'éditorialiser. Et on peut s'étonner, effectivement, qu'une personne vous attaque pour diffamation. Maître Golnadel, ce qu'il faut préciser sur les attaques en diffamation, c'est que si je porte plainte contre quelqu'un pour diffamation, immédiatement, il y aura jugement.
Mise en examen.
Il y aura immédiatement mise en examen, veux-je dire.
Si c'est une plainte avec
cours. Parce que c'est quasiment automatique.
Si c'est une plainte avec constitution de partie civile, effectivement, il y a un renvoi devant le tribunal correctionnel automatique. Donc, il ne faudra pas. Il se trouve que j'ai l'honneur, parce que c'est un honneur de défendre Yohann Ouzaï dans cette affaire. Moi, je ne suis pas du tout étonné que les insoumis portent plainte. Ils portent plainte très facilement. Ils insultent tout le monde. C'est dans l'ADN de l'extrême gauche. Ils insultent tout le monde, mais ils ne supportent pas de recevoir le moindre postillon. La réalité, que Yohann a parfaitement bien analysé, le 7 octobre, ça n'est pas un massacre comme les autres. C'est pas un massacre d'Israéliens. C'est un massacre de Juifs. Le Hamas ignore les Israéliens. Le Hamas ne connaît que le Yahoud. Donc on a tué des juifs, des femmes et des enfants, comme dans le cadre d'un pogrom, un gigantesque pogrom. Et vous avez quelqu'un qui, interrogé après le 7 octobre, considère cette action, comme les actions du Hamas, comme légitime. Pardon. Alors, depuis qu'il y a une loi contre le racisme et l'antisémitisme, il n'y a plus personne qui dit « je suis antisémite ». Ça n'existe plus, ça. Mais quand vous approuvez le pogrom de juifs en tant que juifs, si vous n'êtes pas antisémite, j'ai un problème de vocabulaire. Donc, je n'aurais pas beaucoup à forcer mon talent pour obtenir, justement, le fait que Mme Hassan soit renvoyée dans son camp.
Et puis, permettez-moi effectivement d'être avec vous, cher Johan. Vous êtes un jeune journaliste extrêmement apprécié des téléspectateurs, notamment ces derniers mois, par le courage, l'intelligence, la qualité de vos interventions. Et c'est vrai que en interne, vous êtes quelqu'un que nous aimons et que nous aimons beaucoup pour vos qualités professionnelles, mais aussi pour vos qualités humaines. Donc c'est important de le rappeler que nous sommes dans une rédaction solidaire, unie. Et vous le savez, nous avons tous des liens les uns les autres qui sont très forts, très puissants. Et c'est le moment de les rappeler.
Merci beaucoup.
Force et courage. Johan, alors est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Je ne le sais pas, mais M. Mélenchon a pris la parole aujourd'hui pour insulter la chaîne CNews.
Nos délateurs sont couverts d'infamie et les aboyeurs qui les relaient pendant des heures et des heures sur cette chaîne infâme qui s'appelle CNews. À qui l'organisme qui attribue des fréquences, j'espère, aura le sursaut de dignité de la refuser la prochaine fois puisqu'elle est en cours de renouvellement. 17% du temps d'antenne consacré à nous insulter, à nous calomnier, sans qu'une seule fois une personne sur ces plateaux, dont c'est pourtant le métier et qui voudrait qu'on les appelle journalistes, mais qui sont juste des répondeurs automatiques, ne leur dit « ça suffit de parler comme ça, vous n'avez pas le droit de dire que Madame Rima Hassan ou que Jean-Luc Mélenchon sont des antisémites. Parce que si vous le pensiez, vous devriez porter plainte et vous ne le faites pas. Vous êtes donc juste là pour salir, pour insulter, mais au-delà de nos personnes, pour créer une ambiance effroyable. Celle où les Français viendraient à se regarder entre eux et deviner à la courbure des cheveux, à la légère coloration de la peau, de quel côté vous vous trouvez. La patrie des Français appartient à tous les Françaises et tous les Français, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau. Et nous défendons l'unité du peuple français parce que c'est cette unité qui est notre force.
Je rappelle que M. Mélenchon est le bienvenu sur ce plateau. S'il souhaite échanger avec moi ou avec d'autres, bien évidemment, ça serait mieux qu'il vienne me dire en quoi, nous dire en quoi nous attaquons la France insoumise de manière différente des autres. J'ai l'impression qu'il y a pour le coup beaucoup de gens qui ont souligné les prises de position et mis en perspective les prises de position de la France insoumise.
Si vous permettez, je vous en prie. C'est extrêmement rare d'avoir un leader politique s'en prendre à une chaîne de télévision avec une telle violence, déjà. Et moi, j'ai assisté en direct, là, à ce qu'on peut qualifier éventuellement d'injure publique. Le fait de dire, de qualifier la chaîne d'une infâme chaîne, c'est une injure publique. Et une injure publique, que je sache, c'est un délit. Nous venons d'assister en flagrant délit à une injure publique pour diffamer, pour discréditer une grande chaîne de télévision.
Avec le risque qu'il faut souligner, avec l'influence qu'a M. Mélenchon, il met sur cette chaîne et sur chacun des membres qui travaillent sur cette chaîne, ça s'appelle une cible.
Absolument.
Donc dans le climat d'aujourd'hui, la responsabilité de M. Mélenchon me paraît grande. Mais je le répète, si M. Mélenchon souhaite venir, M. Bompard, qui vient régulièrement sur la chaîne d'ailleurs, Monsieur Bompard est venu régulièrement sur Europe 1 et sur CNews échanger avec Sonia Mabrouk. Je ne sache pas qu'il ait pensé que cette chaîne était infâme. J'ai échangé avec lui encore 15 jours après l'émission de Sonia Mabrouk. Jamais il ne m'a dit que notre chaîne était infâme. Donc ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon.
qui accuse CNews de préparer les esprits, un climat délétère, etc., quasiment à la guerre civile, alors que dans la même journée, lui et son parti, en attaquant Johan premièrement et ensuite avec cette prise de position, c'est quand même... Moi, j'ai été au tribunal contre la France insoumise. Une fois, je sais très bien pourquoi ils font ça et à quoi ça sert. C'est vraiment de l'agitation. En fait, ils font au tribunal ce qu'ils font à l'Assemblée. Et c'est pas drôle.
Ça va être intéressant, d'ailleurs, d'entendre nos confrères... demain, d'écouter pourquoi pas France Inter, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'il y a des solidarités et des deux poids, deux mesures.
On n'est pas sur une totale confraternité. Non, mais c'est très intéressant, ce
passage-là. Oui, bien sûr.
C'est ce que je vous ai. C'est dans l'ADN de l'extrême gauche. Ils poursuivent pour des propos, ils injurient. Vous voyez, ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre d'être victime d'un liberticide et en même temps ils demandent l'interdiction de la chaîne. C'est dans leur ADN.
Mais je répète, et chacun le verra comme ça, dans le climat actuel aujourd'hui, dire ce qu'il a dit de CNews effectivement peut être jugé irresponsable, on va le dire comme ça. La conférence de Lille avec cette affiche de la France insoumise, effectivement, et c'est ça qui est... Il est possible que je défende l'idée que M. Mélenchon puisse tenir meeting à Lille. Vous voyez, ça va peut-être le surprendre, puisque cette conférence a été interdite. Alors autant qu'elle soit interdite dans l'université... Je pense que c'est ce qu'on disait hier soir, c'est pas la place de l'université. Autant que M. Mélenchon tienne une conférence publique et tienne les propos qu'il veut, me paraît assez surprenant et qu'on puisse l'annuler.
C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Exact, ben on va l'écouter, figurez-vous, dans une seconde. Contre la censure, prise de parole pour la paix, jeudi 18 avril, 18h30, Lille, métro d'Arras, place Van Honecker. Et cette conférence, si j'ai bien compris, a été... annulé aujourd'hui. Encore interdit de réunion. Hier, l'université aujourd'hui à préfecture est dans un lieu public ouvert. Rima Hamas et moi sommes candidats sur la liste de Manon Aubry aux élections européennes du 9 juin dernier, du 9 juin prochain, pardon. Nous interdire de réunion au prétexte que de notre sujet est un abus de pouvoir de République bananière. Aux cafards qui ont voté pour les pesticides contre les fourmis, un message. Même les abeilles qui se sont abstenues en sont mortes. Il est temps de ne plus se taire. Éric Zemmour a pris la défense de Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon a le droit de s'exprimer. On ne m'a jamais vu, on ne me verra jamais me réjouir qu'un adversaire soit censuré, même si on s'en doute, il ne me rendra jamais l'appareil. C'est pour ça d'ailleurs que M. Mélenchon veut interdire manifestement les gens qu'il critique. Je rappelle que CNews n'est pas dans le débat politique comme M. Zemmour ou comme M. Mélenchon. Nous sommes des journalistes, nous témoignons de la réalité avec effectivement une liberté de parole et une liberté éditoriale. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur ce sujet.
Je pense que c'est très important dans les moments que nous vivons que l'ensemble des voix puissent s'exprimer de manière libre et qu'après, chacun puisse combattre les arguments qui sont exprimés librement. Je ne partage pas la vision des choses, ni sur le conflit au Proche-Orient, ni sur beaucoup de choses, de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense que c'est important qu'il puisse exprimer sa voix. Et c'est la même chose pour M. Zemmour. Et je pense que ça a toujours été la force de la République, c'est de nous battre pour que toutes les voix puissent s'exprimer, toujours dans un cadre respectueux, mais qu'elles puissent s'exprimer. Quand bien même nous combattons leurs idées, mais on le fait d'argument à argument.
Et pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, j'ai cité Rima Hassan, bien évidemment, Rima Hassan, et c'est cela qu'il fallait évidemment entendre.
Il y a quand même
une certaine
cacophonie, parce que le préfet n'a pas pu prendre une décision aussi sensible sans l'accord, parce que le préfet représente l'État. Sans l'accord de, au moins de Matignon, au moins de Matignon, voire d'Élysée. C'est quand même curieux ce désaveu d'un préfet qui a pris une décision.
Non, mais vous avez raison, personne ne l'a souligné comme vous le soulignez là, vous avez parfaitement raison.
Il y a un problème là.
Oui, mais le préfet en plus, effectivement, est en lien direct avec, par définition. Non, mais vous avez parfaitement raison.
Au moins le ministère de l'Intérieur.
Mais personne n'a souligné ça, Georges.
J'attends de voir.
Et effectivement, on peut s'interroger sur le fonctionnement. Vous avez parfaitement raison.
Il me semble.
Mais... Ceci posé, Il faut reconnaître, sur le principe, je suis tout à fait d'accord avec M. Macron, avec vous, avec tout le monde.
Oui.
Mais vous ne pouvez pas m'empêcher de dire que...
On défend la liberté d'expression.
Oui, je vous dis, l'arroseur arrosé, c'est quand même un spectacle assez comique.
Oui, mais...
Non, mais mon stock compassionnel n'est pas suffisant pour ne pas... pour ne pas un peu en rire.
Non, mais j'entends bien.
Que le censeur soit censuré... J'y vois quand même quelque chose
d'amusant.
Oui, mais vous lui donnez
d'une certaine manière...
Je ne veux pas me battre.
Vous lui donnez des arguments.
Mais je ne donne pas d'arguments du tout. Il fuit encore...
Vous le victimisez.
Non. Ce qui est vrai, et je m'en réjouis, c'est qu'il est diabolisé. On voit leur degré maintenant de diabolisation. Il n'y a pas de diable. Le diable n'existe pas pour moi. Mais on voit quand même politiquement... leur degré de diabolisation à eux qui ont passé leur temps à diaboliser, à voir justement peut-être qu'ils sont maintenant victimes d'une injustice.
Dernière chose sur Éric Zemmour cette fois-ci, parce que hier la réunion avait été annulée, la réunion à Bruxelles, et ce matin Robert Ménard était présent et il a s'est adressé quasiment directement à Éric Zemmour. Écoutons-le.
Éric, il faut qu'il se calme sur ce qu'il... Sans rigoler. Il faut juste qu'il se calme. Quand il parle à propos de comment ça s'appelle, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Bruxelles, que c'était
un califat.
Non, sans déconner, Éric, calme-toi. C'est pas un califat, c'est plein de choses, mais sans ça. Sinon, qu'est-ce que tu vas... Comment, demain, quel mot tu vas trouver plus fort? Tu vas dire quoi? Que c'est un enfer, en enfer vert? Enfin, je sais pas, je vais imaginer. Tu peux pas faire ça.
Je vais vous dire, si on voulait quand même synthétiser cette première séquence, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai que ce serait bien que chacun peut-être redescende d'un cran sur ses déclarations. Le mot califat, sans doute, n'était-il pas adapté tout à fait.
Vous avez oublié ce qui s'était passé le soir même.
Mais
quand
si,
même.
Oui, mais je ne l'ai pas oublié, justement.
Mais peut-être.
Parce que là, il y a une sorte d'escalade. Et,
je suis désolé.
Pardon,
je suis désolé. Robert est un ami, un client, donc je ne veux pas lui déplaire. Mais je donne raison à Éric Zemmour. Pourquoi? Le soir en question. Vous avez quelqu'un contre le droit le plus total.
Non, mais nous sommes
dans
d'accord.
Un pays,
mais c'est pas un califat.
Dans un pays qui est en train de se... Non, mais c'est un pays où les frères musulmans sont de plus en plus puissants.
Oui.
La Belgique est dans une situation quasi apocalyptique. Donc, l'outrance verbale de M. Zemmour est d'une certaine manière à l'image
Geoffroy
de ce paroxysme.
Je trouve ça un peu facile de ricaner, en effet, devant la formule de Zemmour. Il a dit que c'est entre la Belgique est entre la charia et la dictature.
Voilà.
Vous prenez les deux. La charia, c'est ce que vient de dire William, et par ailleurs, c'est le pays qui a fourni le plus gros contingent de djihadistes en Syrie. Enfin, c'est Molenbeek, c'est les gens qui ont frappé la France, nos attentats à nous. Voilà. Enfin, donc la charia, quand se promener à Molenbeek aujourd'hui, c'est même dans la série Fauda qui raconte justement les forces spéciales israéliennes qui vont infiltrer la Palestine, les Palestiniens. Ils ont des scènes à Bruxelles. Ils ont tourné des scènes à Bruxelles pour montrer que Bruxelles, c'était en fait un peu et que l'équivalent. Donc je veux dire, Zemmour l'a pas inventé, je l'ai pas inventé. Donc sur la partie charia, je lui donne raison. Et sur la partie dictature, on a un bourgmestre qui est aux mains de ces gens-là et qui par ailleurs est réputé proche, même il est proche en fait du régime turc, qui
a interdit tout ce que vous dites est juste. Mais le modérateur que je suis, par exemple, l'Arcom, si l'Arcom m'écoute, si par exemple vous dites que la Belgique est en passe de tomber sous la charia, il est possible que l'ARCOM me fasse un petit communiqué pour me dire vous ne pouvez pas laisser dire ça sur un plateau, ça échappe à la modération, etc. Parce que c'est pas exactement le mot la charia. C'est pourquoi je me permets d'intervenir.
Vous avez raison de remettre en question.
Je ne me mets pas en question, je commence à bien connaître l'ARCOM.
Mais Pascal, moi aussi j'ai eu affaire à eux il n'y a pas très longtemps. Ouais. L'ARCOM, dans ces cas-là, il vous demande pourquoi vous avez dit ça, vous leur expliquez et il vous sanctionne ou pas. En l'occurrence, moi je n'ai pas été sanctionné la dernière fois.
Non, alors c'est jamais sanctionné. C'est rarement sanctionné, c'est des appels à vigilance. Et moi, j'ai reçu un ou deux appels à vigilance. Et dans l'espace médiatique, ces appels à vigilance, qui ne sont pas des sanctions, sont instrumentalisés et utilisés comme des...
Je pense que si vous dites peut-être, je pense que si vous dites la Belgique est peut-être en passe de subir les lois de la charia, je pense que l'ARCOM ne vous dira rien.
Par contre, le maire de Bruxelles. Lui,
bon, on va marquer une pause. Tout ce que vous dites est juste, hein, de toute façon. Tout ce que vous dites. Mais on voit bien. Les présidentielles, c'est dans 3 ans. Le climat qui existe aujourd'hui en France, dans la discussion, dans les échanges et sur le terrain, et on va en parler dans une seconde avec Sandra Buisson, avec ce qu'on a appris aujourd'hui de Grande Sainte et les informations que vous allez nous donner, qui donnent une perspective nouvelle à cela. C'est terrifiant, des gosses de 14 ans, 15 ans, qui sont, si j'ai bien compris, qui ont fait une expédition punitive.
Entendu un guet-apens. Pour l'instant, c'est...
C'est la thèse, ce sont vos informations que vous allez nous donner dans une seconde. Je vous assure, ça commence à inquiéter quand même fortement. 14 ans, 15 ans.
Mais c'est pour ça que les politiques sont beaucoup moins violents, pardonnez-moi, que la société dans laquelle nous évoluons.
Ouais, c'est ça.
Bon. Je suis désolé, il faut le dire.
On va marquer une pause. Ce jeune homme qui est mort, qui s'appelle Philippe, il se trouve que sa photo existe sur les réseaux sociaux.
Je l'ai vu.
Vous l'avez vu. Je l'ai vu aussi.
L'horreur.
Je n'oublierai jamais cette photo.
Il est méconnaissable.
Je n'oublierai jamais cette photo. Je pense que je dis aux gens, ne la regardez pas. Puisqu'il a été tabassé à coups de batte de baseball par des gosses de 14 ans.
Massacré.
Massacré par des gosses de 14 ans. On revient dans une seconde. Avec Sandra Buisson, qui est journaliste au service police-justice. Et on va évidemment parler de Grande Sainte. Mais aujourd'hui, on rappelle évidemment ce jeune homme qui a été massacré, la thèse du guet-apens, visiblement aujourd'hui prévaut. Et je voulais, Sandra, que vous nous apportiez les informations que vous avez eues aujourd'hui.
Alors, à l'heure qu'il est, on a les informations suivantes, c'est-à-dire qu'au cours des gardes à vue de ces deux jeunes mineurs, ils ont expliqué qu'ils ont créé un profil de jeune fille sur une application de rencontre, qu'ils ont donné un rendez-vous à un homme sur cette application pour, disent-ils, le punir. Le terme employé. Le punir de quoi ? Nous n'avons pas encore cette information, mais ça pourrait expliquer pourquoi. Quand il a été retrouvé à terre, alors ça peut choquer ce que je vais dire, mais on va rentrer dans un certain nombre de détails, il avait le pantalon baissé sur les chevilles, ce qu'on ne comprenait pas jusqu'à ce qu'on sache la justification évoquée par ces mineurs en garde à vue. Les policiers doivent déterminer si c'est bien à Philippe qu'ils ont donné rendez-vous ou si c'est à une autre personne parce qu'ils se sont trompés. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'au moment où il a été agressé, il était avec un ami au téléphone. Et cet ami a entendu les instants avant l'agression. Et il a entendu les agresseurs lui demander s'il était sur un site de rencontre. Ce à quoi l'ami a entendu Philippe répondre « Non, je suis avec un ami au téléphone ». Autre point important, il y a eu d'autres agressions dans les périodes précédentes et les enquêteurs cherchent à savoir si les deux jeunes en garde à vue peuvent y avoir participé, notamment l'agression d'un homme de 39 ans qui a été passé à tabac 2 jours avant l'agression de Philippe. Dernier point, selon nos informations, le jeune des deux qui est suspecté d'avoir été le plus violent pendant cette agression est le mineur de 14 ans. Et une source proche du dossier nous indiquait que ces deux jeunes sont décrits comme issus de milieux familiaux très compliqués.
Il a été fracassé, tabassé avec une batte de baseball.
Alors nous, on n'a pas les informations sur ce qui a été utilisé pour le passer à tabac. D'ailleurs, ça doit être l'un des objets de l'autopsie pratiquée.
On verra quel sera leur sort judiciaire. Hein. Ils ont 14 ans.
Qu'est-ce qu'on fait avec... Qu'est-ce que la société fait avec des gosses de 14 ans?
Moi, je ne peux pas imaginer qu'ils ne soient pas incarcérés. Hein.
Non, mais ça c'est sûr. Ouais.
Enfin, la détention provisoire pour les 14-16 ans,
elle est limitée. Mais qu'est-ce qu'on fait?
Un mois plus un mois, hein, je crois.
Qu'est-ce qu'on fait
Sauf en matière...
Et plus largement, qu'est-ce qu'on fait avec cette police des mœurs qui est en train de s'installer partout. On laisse faire. C'est-à-dire que nos politiques ne prennent pas la mesure de ce basculement qui a lieu. Partout. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans le sport, que ce soit des personnes hétérosexuelles, que ce soit des personnes homosexuelles, etc. etc. Il y a de plus en plus, aujourd'hui, des guet-apens qui sont tendus
et qu'est-ce qu'on
par
fait
une police des mœurs,
et qu'est-ce qu'on
par
fait
une milice des mœurs. Et qu'est-ce qu'on fait ?
Rien. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Mais rien, parce
mais
qu'on
a... non, mais qu'est-ce qu'il
mais
faut
parce
faire
que, on n'a même pas pris la mesure. Alors,
mais qu'est-ce qu'il faut faire ?
Prendre la mesure du phénomène.
Oui. Mais elle est niée. Gabriel Attal aujourd'hui a parlé, on l'entendra sur la sécurité. Je n'ai pas entendu j'ai entendu des jeunes, j'ai entendu les écrans, j'ai entendu la télévision.
Ah oui, les écrans, oui. Ouais.
J'ai pas entendu police des mœurs.
Non.
J'ai pas entendu ce mot-là.
Milice des mœurs, je devrais.
Milice des mœurs, je l'ai pas entendu.
Voilà.
Sauf erreur de ma part. J'ai pas entendu. Il y a des problèmes d'intégration. Non, les jeunes. Des civilisations, les jeunes. Bon, ben d'accord. Et on écoutera Gérard Larcher tout à l'heure qui, lui, a les bons mots.
Oui.
Parce que ce matin, alors, lui, il a dit clairement les choses.
Il avait un côté tonton flingueur.
Ben, on l'écoutera. Mais c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que le déni, il est là.
C'est sûr.
Si le Premier ministre avait dit « Attention, police des mœurs, ce que vous dites là, à faire Samara, à faire Bordeaux, à faire peut-être celle-là, même s'il faut être prudent à Grande-Synthe, avec ce... »
Pour l'instant, leur déclaration.
Bien sûr. Il faut être prudent,
comme toujours. Attendez,
mais police des mœurs,
pardonnez-moi, ministre des mœurs, ça peut être n'importe qui, des personnes de toute origine. Mais
Chemsidine, à Viry-Châtillon, c'est police des mœurs.
Oui. Oui, moi je préfère dire ministre des mœurs.
Ministre des mœurs, si vous voulez. Mais le Premier ministre, le Premier ministre n'a pas employé ces termes-là.
Le terme.
Bon. Milice, si vous voulez, des mœurs.
Milice, c'est mot noble. Ouais.
Bon.
Donc moi je préfère dire ministre des mœurs.
Alors,
c'est un fait aujourd'hui de société, d'accord. Et malgré tout, les sociologues et les experts en expertologie que nous pouvons avoir en France, personne n'ose dénoncer ce fait.
Grande-Synthe, on peut peut-être voir le sujet de Noémie Hardy et le choc dans cette ville du Nord.
Des fleurs pour honorer Philippe, le jeune homme passé à tabac et tué pour un téléphone. Sa famille a communiqué une photo de lui. On le voit souriant. Il était animateur dans un centre socio-éducatif et était aimé de tous.
Quand je venais, je récupérais ma fille. C'est un jeune qui mettait de la musique, qui mettait de l'ambiance et tout ça. Il y avait une joie de vivre, quoi.
Il venait de temps en temps à la maison. Mes garçons le connaissaient très bien parce que c'était un ami à eux. Et oui, c'est un garçon sans histoire. Il a plusieurs frères. On les a jamais vus dégrader quoi que ce soit dans notre ville.
Selon un témoin, il a été agressé par 3 personnes dans la nuit de lundi à mardi. Il lui aurait volé son téléphone avant de prendre la fuite. Une autopsie va être menée. L'objectif, déterminer la nature des coups et l'éventuelle utilisation d'armes. En attendant, les habitants sont dans une incompréhension.
C'est un acte... En tant que parent, on ne saurait même pas comment en réagir. Je voudrais même... j'ai pas de mots.
Une enquête a été ouverte pour meurtre en bande organisée et confiée à la police judiciaire. 2 mineurs de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue. Une jeunesse qui interroge les habitants.
Ça fait peur en plus parce qu'on se dit si des jeunes ados sont capables de faire des actes comme ça à cet âge-là, ben, ça va être quoi quand ils seront adultes?
Les circonstances du drame restent à éclaircir. Une marche blanche aura lieu demain à 11h pour rendre hommage à Philippe.
Et évidemment, aujourd'hui, vous le savez, en visite à Viry-Châtillon, la commune où Chemsidine, 15 ans, a perdu la vie à proximité de son collège après avoir été passé à tabac, le Premier ministre Gabriel Attal a listé un certain nombre de mesures qu'il souhaite mettre en place pour endiguer la violence chez les jeunes, dit-il. Je voudrais qu'on voit le sujet de Sarah Varni, on en parle ensemble.
C'est un déplacement sur le thème de l'autorité. Le Premier ministre Gabriel Attal est arrivé vers 10h30 ce matin à la MJC de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Une ville récemment marquée par le décès le 5 avril dernier du jeune Chemsidine, 15 ans, passé à tabac la veille près de son collège. Le Premier ministre a pu échanger avec certains jeunes et encadrants, accompagné notamment du ministre de la Justice et du maire de la ville, Jean-Marie Villain.
Le simple fait de faire d'avoir des actions dans la ville qui sont nécessaires pour la ville, mais aussi de se rendre compte que quand on fracasse un pot de fleurs dans la ville, ben, ça nécessite du boulot, et que quand on l'a rattrapé ou quand on a nettoyé un tag, ça
c'est quoi la suite?
Tu salis, tu nettoies.
Dans son discours prononcé à l'issue de ces rencontres, Gabriel Attal appelle à un sursaut d'autorité.
Comment accepter qu'on touche, qu'on salisse, qu'on s'en prenne à ce qu'il y a de plus sacré en République? Comment accepter cette spirale, ce déferlement, cette addiction d'une partie de nos adolescents à la violence? Oui, je parle de spirale. Oui, je parle de déferlement. Oui, je parle d'addiction. Et non, on ne peut pas l'excuser.
Pour le Premier ministre, la contre-attaque de la République passe par 5 points. Responsabiliser les parents, réguler la dépendance des jeunes aux écrans, sanctionner les élèves perturbateurs, se pencher sur la question du fait religieux à l'école et enfin, sur le volet judiciaire, ouvrir le débat sur l'excuse de minorité. Le Premier ministre a annoncé donner 8 semaines pour faire aboutir le travail collectif de concertation souhaité par Emmanuel Macron, un Grenelle sur la violence des jeunes avec un point d'étape dans 4 semaines.
Bon.
Il y a quand même le fait religieux à l'école, manifestement, qui est envisagé.
Sur la culture de l'excuse, M. le Premier ministre Gabriel Attal n'a aucun pouvoir, en réalité. Qui applique la culture de l'excuse, selon vous? Ce sont les juges. Vous pourrez dire tout ce que vous voudrez, faire une loi, tout ce que vous voudrez encore, que le garde des Sceaux n'y est pas favorable.
Il a dit que c'est fini, la culture de l'excuse.
Bah, c'est déjà reconnaître qu'elle existait. Bon. Mais le fait de dire c'est fini, ça ne veut pas dire que les juges vont en finir avec la culture de l'excuse. Vous le
Moi,
savez
ce
très
qui
bien.
Est intéressant, c'est pas ce qu'a dit Gabriel Attal, c'est ce qu'il n'a pas dit.
C'est-à-dire
sur les problèmes d'intégration et d'immigration.
Ah bah oui, mais oui, il a parlé de la religion
et...
quand même.
Oui, mais alors, écoutez Gérard Larcher, justement, parce que Gérard Larcher, ce matin, j'ai envie de dire, les LR se réveillent. Il est bien tard. Il est bien tard. Il est minuit moins une.
Ne regardez pas comme ça.
Si, il est minuit moins une. Parce qu'en fait, monsieur Larcher, il dit aujourd'hui ce que d'autres disaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans.
Oui.
Mais quand d'autres le disaient, ils étaient mis au pilori.
Il y a 5 ans, il avait exclu des gens qui avaient déjeuné, avec Marion Maréchal. D'accord,
donc,
il y a 5
ans. Donc il est bien tard. Il est bien tard. Mais écoutons quand même Gérard Larcher, parce que mieux vaut tard que jamais.
Nous avons besoin d'actes. Nous n'avons pas besoin de nouveaux Grenelles. Nous n'avons pas besoin de nouveaux débats. Nous avons besoin d'actes et des actes, notamment devant le Parlement, et des actes qui, j'allais dire, apportent une réponse à cette, pas simplement des civilisations, à cette perte de repères de notre société, qui naturellement est liée à la déstructuration des familles, mais aussi, il faut se dire les choses, à l'échec de la politique d'intégration, et on voit bien dans les atteintes à la laïcité, et puis, pour partie, un cheminement lent d'une forme, j'allais dire, d'islamisme radical.
La désintégration des familles, c'est vrai qu'elle existe par rapport aux années 70, il y a sans doute plus de séparation aujourd'hui, mais que je sache, les enfants ne sortent pas tous avec un couteau.
Non,
mais c'est important de le dire.
Oui, c'est un phénomène qui est nouveau, ça. Tout à fait, vous avez entièrement raison.
Donc, lorsqu'il...
Ah, on ne le voyait pas.
Oui, mais lorsqu'il souligne, effectivement... la politique d'échec de l'intégration et que vous parlez de milice des mœurs, bah vous avez une nouvelle génération qui met en place des nouveaux codes, des nouveaux mœurs et qui veut faire régner une sorte de terreur.
Donc, c'est pas ouvert, là.
Oui, sauf, je vous le répète, sauf Gabriel Attal, Premier ministre de la France. Il va à Viry-Châtillon, pardonnez-moi, pour rien. Voilà. Si on se dit les choses, pour rien. Donc il dit, il parle des écrans. Bon, d'accord. Continuez. C'est les écrans le problème.
Ça donne même un sentiment plus fort encore d'impuissance. La réalité, elle est là. Mais Georges avait parfaitement raison sur la culture de l'excuse chez les magistrats. Cet après-midi encore, sur une radio publique, vous aviez la présidente d'un syndicat de magistrats qui n'est pas le syndicat de la magistrature, qui est le syndicat censé être un peu plus modéré, qui expliquait que finalement, ça n'est pas vrai, les magistrats n'étaient pas laxistes, sinon il n'y aurait pas de la surpopulation carcérale. Mais comment on en est ? Il y a de la surpopulation carcérale parce qu'il n'y a pas assez de prison. C'est la réalité, elle est là.
Pas laxiste, moi j'ai encore vu un jeune en rodéo foncer sur un policier et ressortir avec un contrôle judiciaire.
Alors justement, puisque vous en parlez, et ce matin à 9h, nous avons ouvert avec ça. On est les seuls à parler de ça. Ce que vous dites, ça, cette mise en perspective de Schiltigen, c'est Sandra Buisson ce matin qui m'a averti, et on en a parlé, on va en parler dans une seconde, mais terminons avec M. Attal. Je voudrais quand même la culture de l'excuse, vous l'avez dit. Il y a eu un échange avec les jeunes à Viry-Châtillon, et je voulais qu'on écoute cet échange, Gabriel Attal.
Comment est-ce que vous analysez un peu ce qui s'est passé
Personnellement, je trouve que c'était une façon de défendre, du coup, le jeune garçon qui était mort à cause d'un policier. Mais est-ce que c'était réellement utile, parce que c'était des jeunes qui détruisaient nos propres quartiers à nous? C'était à nous déjà qu'on n'a pas grand-chose, et ils le détruisent en plus. Enfin, c'est pas complètement utile, enfin, c'est pas du tout utile en fait. Et nous, on est jeunes, on est petits, et voir ça, c'est marquant. Ça nous marque.
Ça choque.
Ça choque, exactement, c'est ça.
Bon, donc effectivement, ces jeunes gens, ils expriment en disant que c'est contre-productif puisque ça attaque...
Ils ont très bien compris, ils ont très bien compris aussi qu'il faut se poser tout de suite en victime. Tout de suite. C'est le sens du propos. Donc il faut, bien sûr, dans la société dans laquelle nous vivons, il faut se poser en victime.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que c'est ce qui ressort de ce que je viens d'entendre.
Voilà, ils se posent en victime, c'est vrai. Elles sont victimes. Mais tout de suite, la première réaction, c'est se poser en victime.
Les premières victimes sont ces gens des quartiers.
Bah, moi, je ne l'ai pas. Mais pour le coup, je ne l'ai pas.
Elles sont victimes. Ouais. Mais, allez, un mot, pardon, de compassion avec la personne, justement, qui a été.
Non, mais là, je pense qu'il interrogeait sur les émeutes de juin. Ouais. Et elle disait, voilà, ces jeunes gens ont réagi après la mort de Naël, mais ils s'en sont pris à notre cadre de vie. Voilà ce qu'elle disait, ces jeunes femmes-là, et c'est contre-productif. Voilà ce que j'ai compris.
Oui, je sais pas.
Oui. Je propose que nous refermions effectivement ce chapitre Attal et que nous parlions précisément de ce dont vous.
Il y avait un élément aussi, pardon, qui a été donné quand même de Gabriel Attal, où j'ai mal entendu. C'est sur débattre, poser dans le débat la notion de culture. Oui.
Sauf que
l'excuse de minorité.
Non, 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 oui. Sur l'application de l'excuse de
minorité. Oui, mais
non, ils y reviendront pas.
Mais c'est pas l'essentiel.
Ils y reviendront pas.
C'est évidemment pas l'essentiel. L'essentiel, il est pas.
Bah, c'est important. Mais,
c'est important. Johan Usaï.
On n'applique jamais.
Je crois que Gabriel Attal, en réalité, il fait ce qu'il peut, il a la volonté de faire les choses, il fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas grand-chose, en fait. On sent bien qu'il y a là, effectivement, je rejoins Gilles William, une forme d'impuissance qui est manifeste, qui est indiscutable, et lui-même sent qu'il est impuissant face à la situation. Si jamais Emmanuel Macron considérait qu'il y avait une urgence presque vitale pour le pays à agir face à l'insécurité et à l'explosion de la violence chez les jeunes, eh bien Emmanuel Macron, il s'adresse à la nation, il dit « Je donne au garde des Sceaux 2 mois pour rédiger un projet de loi, pour se concerter avec le Parlement, pour faire en sorte que le Parlement vote une révision de la Constitution, pour appliquer des peines planchers. Voilà. Mais annoncer une concertation qui va déboucher sur quoi? Après la concertation, il y aura un grand débat avec les Français. Ça n'a pas de sens.
Il faut effectivement des actes.
Et seul le Président de la République a le pouvoir de faire cela rapidement.
Schildigen, et ça va nous intéresser. On va revoir, et on l'a dit ce matin, cette image folle quand même et d'une très grande violence d'un jeune homme mineur 17 ans et demi, qui fait un rodéo, qui refuse d'obtempérer et qui fonce délibérément sur un policier. Donc on peut voir cette image, on l'a vu, c'est arrivé lundi, mardi, on peut la voir en boucle, etc. Eh bien, ce jeune homme, il est sorti libre, il est sous contrôle judiciaire, il sera jugé au mois de juin, et si vous êtes policier aujourd'hui, mais vous vous dites enfin c'est... Cet État ne me protège plus.
Il ne sera même pas condamné au mois de juin, puisqu'il faut renvoyer une seconde audience pour savoir quelle serait éventuellement la peine.
Enfin, c'est vrai. Donc d'un côté, on te dit, on sera intraitable, tous les mots. Là encore, Madame Belloubet, ce soir, a dit...
Notre main ne tremblera pas.
Oui, notre main ne tremblera pas. Enfin, c'est absolument insupportable. Et de l'autre, tu es confronté à une réalité. Tu as un scooter, une moto qui fonce délibérément sur un policier... Et l'homme est relâché dans la seconde après une garde à vue. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Je me rappelle le policier qui avait été traîné sur 20 mètres avec un véhicule.
Mais enfin, comment est-ce possible, Gilles William ? Comment
5 heures de
non, mais travail. Comment est-ce possible ?
On a justement dans cette affaire-là le focus sur la folie générale de la société. D'un côté, sa violence et de l'autre côté, son incroyable faiblesse. Il y a les deux.
Mais ce qui est dingue, pardon, c'est qu'on va demander à Éric Dupond-Moretti à nouveau de réformer la justice des mineurs, etc.
Il l'a fait en 2021.
Qui vient d'être réformé. Il y a eu une réforme il y a 3 ans. Oui. Donc on constate que cette réforme faite par le président de la République actuelle, en réalité, ne fonctionne pas. Donc Emmanuel Macron, constatant son propre échec, demande à nouveau au garde des Sceaux de réformer. Vous imaginez bien que c'est sans fin et ça n'a aucun sens.
Mais c'est dans ce cadre, tu confirmes, si je me trompe. C'est bien dans le cadre. De chez M. Macron, que l'on a séparé justement chez les mineurs.
En 2021,
c'était
on a créé deux audiences au lieu d'une.
C'était pas Dupond-Moretti.
Une pour la culpabilité.
C'était pas Dupond-Moretti.
Si, c'était précisément Éric Dupond-Moretti.
C'était lui, bien sûr.
C'était Éric Dupond-Moretti.
Effectivement, la réforme Dupond-Moretti. L'audiencement, c'est à 2 ou 3 ans.
Non, c'était Éric Dupond-Moretti. Il y a même pas de.
C'est un aveu d'échec terrible.
C'est contre-productif. Au lieu de mettre la sanction tout de suite, on la reporte à on ne sait pas quand.
C'est mieux tout de suite.
On voudrait saboter les choses qu'on ne procéderait pas autrement.
Ah non, c'est mieux 3 ans. Mais tout de suite, c'est encore mieux.
Et dans les joyeusetés de la journée, vous avez également cette affaire de Dante.
régulièrement, on parle, vous savez, de la mairie de Nantes. Oui. Et ça aussi, c'est absolument formidable. Après la dégradation à la peinture orange de la préfecture de Nantes par des militants de dernière rénovation en mars 2023, la mairie de Nantes avait demandé 8 200 € pour les opérations de nettoyage. Mais volte-face, la maire de Nantes, Johanna Roland, n'a finalement demandé qu'un euro symbolique. Et voilà, parce qu'elle est, moi je le dis sans arrêt, elle est tenue, Madame Roland, par son extrême gauche. Elle est tenue, elle pense à 2026. Donc effectivement, dernière rénovation, qui est un organisme d'extrême gauche, la préfecture de Nantes, la saccage et tu ne demandes pas réparation.
Là, donc, du coup, ça va recommencer.
En fait, donc le sali, je salis.
Là, en l'occurrence, c'est tu casses, tu ne payes pas. Ou tu salis,
voilà, tu casses, tu ne payes pas.
Mais donc, là, c'est la désobéissance civile sanctifiée. C'est pas seulement de l'indulgence. On favorise au contraire une violence sanctifiée là.
Alors la sénatrice des Républicains de Loire-Atlantique Laurence Garnier de Digerpos, la dernière décision prise par Nantes Métropole, les délinquants écologistes saccagent, les honnêtes gens payent la facture. Voilà. Mais c'est vrai que ce pays c'est invraisemblable, invraisemblable. Et
c'est un regard psychiatrique qu'il faut porter sur la société.
Je pense
la
que vous avez raison. Je pense que vous avez. Alors là, il y a quand même quelques petits intérêts électoraux.
Oui.
Vous savez combien Jean-Luc Mélenchon a fait au premier tour de la présidentielle à Nantes? 33%. Vous savez combien il a fait à Rennes? 36%. Dans des villes comme Rennes et Nantes. Donc voilà ce que nous pouvions dire. La directrice de Marseille, puisque vous avez sans doute eu vent de cette information, la directrice de l'école de la Millière, située dans le 11e arrondissement de Marseille, a violemment été agressée par la grande sœur d'un élève à la suite d'un différend avec la mère au sujet d'une autorisation de sortie non signée. En fait, c'est effectivement là aussi la violence partout et tout le temps. Alors je vous propose...
Avec là aussi une nouveauté, c'est que les parents... sont de plus en plus menaçants au sein de l'école.
Oui, ça s'est passé en plus en plus.
Bien sûr.
Je suis vraiment.
Ce ne sont pas simplement les enfants, parce qu'on dit généralement, les enfants ne sont pas encadrés par les parents. Non. Non, les parents sont de plus en plus menaçants au sein de l'école.
Bon, je suis désolé de vous parler de ça. Vraiment, je voudrais quand même vous parler d'autre chose, peut-être à 20h53. Regardez, il reste quelques minutes. Vous ne voulez pas qu'on parle de choses plus légères?
Si.
Bon, on va parler de Marcel Pagnol. Et si on parlait de Marcel Pagnol? Parce que Marcel Pagnol, le 18 avril 1974, Marcel Pagnol disparaissait. Donc Marcel Pagnol, il y a une chose, et il est, je pense, unique dans l'histoire des artistes français, des littéraires français, grand metteur en scène, grand homme de théâtre et grand romancier. Grande littérature. Il n'y a pas d'exemple dans vous qui êtes, connaissez particulièrement ça. Guitry faisait théâtre et cinéma, éléments. Mais bon...
Un peu Cocteau, quand même.
Non, ces trois éléments, non. Ces trois éléments.
Yann Moix, quoi.
Yann Moix. Ouais. J'aime beaucoup Yann Moix, mais je le mets pas encore au niveau de Pagnol, dans le théâtre.
Il a un plan dessous, mais au cinéma, il a fait des vrais succès, Yann. Ouais.
Oui. Ouais. Bon, en tout cas, c'est les 50 ans de Pagnol, et on peut peut-être voir un sujet pour ces 50 ans de Pagnol.
En plein cœur d'Aubagne, c'est dans cette maison que Marcel Pagnol vit le jour, le 28 février 1895. Le rez-de-chaussée, à présent transformé en musée, plonge les visiteurs dans l'univers de l'écrivain cinéaste.
L'air était calme et les puissantes odeurs de la colline, comme une invisible fumée, emplissaient le fond du ravin.
L'esprit Pagnol, c'est tout cet héritage en fait qu'il a laissé, qu'il nous laisse encore aujourd'hui. Les souvenirs d'enfance hein, qui nous font encore référence aujourd'hui, ou ces petits garçons qui expriment la joie qu'il avait de partir dans les collines avec ses parents, de passer les vacances là-bas. C'est tout ce côté familial et enfantin.
Mais 50 ans après sa disparition, que reste-t-il de l'artiste ?
Pagnol, c'est la Provence, c'est Marius, c'est Fanny, c'est le château de ma mère, c'est tous ses écrits, tout son chant de la Provence. Dès qu'on lit Pagnol, on a le soleil, en fait.
L'esprit Pagnol, c'est la famille, c'est le patois, c'est la région, c'est beaucoup pour nous.
À quelques kilomètres du centre-ville, au pied du massif du Gard-Laban, tous les jours, des dizaines de touristes et de randonneurs découvrent le terrain de jeu du jeune Pagnol. L'artiste intemporel.
Et il y a une chose aussi qui est très impressionnante chez lui. Moi, je suis né en Provence et j'ai passé une partie de ma jeunesse là-bas. C'est qu'il incarne vraiment cette région. C'est-à-dire qu'en fait, il est partout. Il a toutes les images d'Épinal de la Provence sont chez Pagnol. Et quand vous êtes là-bas, vous vous sentez chez lui. Sur le vieux port de Marseille, par exemple, il y a plein de références à Pagnol, etc. Et pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, je pense, des artistes qui vont incarner une région.
Ouais. C'est important aussi, c'est l'odeur. Chez Pagnol, parce qu'il y a peu d'écrivains qui arrivent à rendre l'odeur, même des très grands écrivains qui n'arrivent pas à le faire. Lui, il arrive à le faire. C'est-à-dire qu'on lit Pagnol et on sent. C'est-à-dire il y a, ouais,
La France telle qu'on l'aime.
Oui. C'est-à-dire c'est une. Oui, bien sûr.
Oui, oui, il y a une certaine cruauté aujourd'hui à évoquer Pagnol.
Oui. Voilà. On aimerait bien du Pagnol partout.
François Mauriac a tracé de lui dans son bloc-notes un portrait amical Pagnol, le seul à ne pas avoir de socle. Il semble s'être glissé dans cette antichambre de l'éternité en passant par la fenêtre, le seul qui sente l'air du dehors.
C'est ça.
Et ça rejoint...
C'est odoriférant, la prose.
Odoriférant.
Oui, la prose bon. De Pagnol est odoriférant.
Et puis, il y a évidemment des comédiens qui ont incarné Pagnol. Rému, Charpin. Et quand on était enfant, il n'y avait que deux ou trois télévisions. Deux ou trois chaînes, donc Fanny, César, Marius, Jean de Florette, Manon des Sources, avec Jacqueline Pagnol qui est morte il n'y a pas très longtemps.
Et comment il s'appelle et celui de la partie de cartes ce monsieur...
C'est Marius.
Oui, c'est Marius.
Non, oui, non.
Tu me fends le cœur. Ouais. Et moi, toi, il te fend le cœur et à moi, il ne me fait rien. Ouais. Non, c'est le contraire d'ailleurs. Ouais. À moi, il me fend le cœur et à toi, il ne te fait rien, Escartefigue.
Escartefigue, mais voilà.
C'est Monsieur Brun. Et il y a le Pitalug aussi.
Le Lyonnais.
Monsieur le
Lyonnais.
Qui va acheter un.
Ah ben oui.
Il chavira. Il a tellement chaviré, remarquez bien, qu'il chavirera plus après.
La force de Pagnol, c'est qu'il fait partie. C'est un écrivain populaire et qu'il fait partie de ces écrivains qui ont donné un monde au monde. C'est-à-dire, il y a un monde, Pagnol. Voilà. Et il nous a donné un monde.
Bon, et Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils, étant bisbille avec la mairie de Marseille.
Oui, on a vu ça, bien sûr.
C'est absolument extravagant qu'il veut lui enlever le château qui est le château de ma mère.
Ouais.
Mais on voulait vraiment terminer sur une note un peu plus.
Ça fait du bien.
Optimiste.
C'est Claude Berry qui avait fait le.
Alors, Manon des Sources, par Claude Berry et Jean de Florette, c'est exceptionnel. Oui. Ah, c'est d'abord Jean de Florette et Manon des Sources.
Il a
Château de ma mère, c'est pas lui. Mais,
Il n'a certainement pas trahi Pagnol, c'était formidable.
Et c'est Montand qui joue donc le père de Jean de Florette. Et la dernière scène, quand Montand apprend qu'en fait il est le père de Jean de Florette, donc le père de Gérard Depardieu. Oh, ça serait terrible, ça, si la lettre n'est pas arrivée. Et il y a une dame qui est aveugle, ils sont sur le banc, c'est une scène éblouissante, quoi. C'est une scène extraordinaire.
Charpin, voilà le nom que je cherchais.
Ah, Charpin,
c'est le nom que je cherchais à la partie de cartes.
Ah, ben Charpin, c'est.
Merveilleux, Charpin.
Mais Charpin, effectivement, qui va se marier avec Fanny.
Voilà.
Charpin. Et qui vend le Pitalug.
Voilà.
À Rému. Non pas à Rému, mais à Monsieur Brun. Monsieur Olivier. Monsieur Olivier Benkemoun, c'est un univers évidemment Pagnol. Le château de ma mère, la gloire de mon père.
Est-ce que vous connaissez les lettres de Pagnol à Rému et les échanges entre Rému et Pagnol? Ils ont beaucoup correspondu et ils sont beaucoup écrits, parfois insultés, parfois ils n'étaient pas d'accord, parfois ils se sont fâchés. Et je crois que c'était pour le toit, je regardais ça parce que vous en parliez, pour au moment où... Pagnol est en train d'écrire César. Rému lui écrit « Après le succès de Fanny et Marius, j'ai peur d'un insuccès. Et je dois dire cela par ta faute, ta très grande faute, ta faute de paresse. Faute de paresse de ta part. » Et il s'envoie comme ça des lettres extraordinaires parce que Pagnol a décidé d'écrire César directement pour le cinéma alors que les autres avaient été écrits d'abord pour le théâtre. Voilà, et ça a fâché Rému qui avait besoin de travailler, de connaître le texte et qui trouvait pas ça très brillant d'ailleurs, qui avait demandé à Pagnol de réécrire et continuer à écrire. C'est génial. Si vous tombez sur ces lettres-là, sur cette correspondance, c'est formidable.
Il est mort en 1946, Rému, et Marius avait été monté au théâtre en 1923.
Ça, c'est 35.
Il est mort en 1946 et il avait 60 ans.
Rému. Il a eu un accident de voiture, il est resté 3 mois à l'hôpital, il est revenu à l'hôpital américain pour faire une anesthésie et il est mort sur la table d'opération. Et à l'enterrement à Saint-Philippe-du-Roule, mais il y avait tout Paris. C'est ça qui est absolument incroyable. Ces enterrements à l'époque, il y avait évidemment des gens comme Jouvet, tout ce que le théâtre et le cinéma comptaient, mais surtout il y avait des Parisiens, comme pour Édith Piaf, il y avait un monde absolument fou.
Voilà, et vous savez que moi je viens d'un petit village qui s'appelle Fontvieille, que les lettres de Bonmoulin de Daudet ont été mises au cinéma, racontées au cinéma, tournées par Marcel Pagnol.
Eh bien merci beaucoup.
Voilà, je voulais vous dire une chose,
oui,
Jean-Christophe Cambadélis est là.
Eh bien,
Jean-Christophe Cambadélis arrive.
Eh ben, il vous parlera sans doute de Jean-Luc Mélenchon, qu'il a bien connu.
Pense, oui.
Ils se sont connus parfois chez les trotskistes.
Ouais. Au début, oui.
Ouais. C'est intéressant de parler du trotskisme. Je ne sais pas s'il en parle, M. Cambadélis. Ouvertement. Mais vous pourrez l'interroger parce qu'il y a toujours quelque chose de mystérieux sur cette organisation. Thibaut Palefroy.
Mais pareil. Hein.
Non. Oui. Thibaut Palefroy était à la réalisation, Pierre Maurice était à la vision, Benjamin était au son. Merci à Benjamin Noe, à Tom Viala, à Guilhem Lafage. Demain soir, ce sera évidemment Elliot Deval qui sera là pour l'heure des pros. Merci vraiment. Merci à tous. Courage, ami Johan. Nous sommes avec vous, bien évidemment. Bonne soirée. À demain.